RCF.
Amis auditeurs, auditrices de RCF et de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, dans le cadre du Berry se raconte avec Agora Défense. Bonjour. Nous poursuivons la passionnante histoire de l'amiral Philippe Mallard. C'est notre troisième émission et nous n'avons pas fini d'interroger et d'écouter l'amiral Mallard. Amiral, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre carrière de marin se termine avec ce poste de contrôleur général des armées. Votre carrière de marin terminée, vous retournez dans vos terres berrichonnes, mais vous n'arrêtez pas vos activités. En effet, vous devenez conciliateur de justice. Alors, amiral, pouvez-vous me dire ce que fait un amiral comme conciliateur de justice ?
Bon, écoutez, j'ai un côté rat de bibliothèque. J'ai fait un certain nombre d'études, plus ou moins évidemment scientifiques, et à un moment, avec mon épouse, nous avons trouvé qu'il nous manquait une culture juridique. Nous avons donc fait notre droit. Et donc, j'ai fait mon droit, bon, ben voilà. Et donc après, au moment où j'ai décidé de quitter le service actif de la marine, j'ai été sollicité pour devenir conciliateur de justice. J'ai dit pourquoi pas. Et je m'y suis passionné. J'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. J'ai arrêté quand on a commencé à changer ses fonctions.
Alors, quelle est la mission du conciliateur de justice ?
Alors, la mission du conciliateur de justice, c'est donc de concilier et non pas de faire de la médiation. C'est de la conciliation, ce qui est complètement différent.
Oui.
Et grosso modo, le mandat que nous avions à l'époque était simple, était vous connaissez la loi, vous avez le droit, vous savez donc ce qui est illégal, vous avez le droit de faire tout ce qui n'est pas illégal. C'est-à-dire que entre la loi et l'illégal, il y a tout un domaine. Tout un domaine où on peut faire des choses que je qualifierais de bon sens, quelque part. En faisant évidemment attention à rester dans la légalité. Et donc, c'est ça ce que j'ai fait. Et grosso modo, vous avez plusieurs domaines. Vous avez le premier des domaines au point de vue nombre de clients, si je puis dire. Enfin,
oui.
C'est la famille. On y reviendra. Le deuxième domaine, c'est le commerce.
Oui.
Et le troisième domaine, c'est les municipalités avec leurs administrés. Mmh. Le premier domaine, la famille, c'est le plus difficile.
Oui.
Vous savez, quand vous commencez à avoir un petit peu d'expérience, quand les gens rentrent dans la pièce, vous vous dites « Oh là là, aujourd'hui ça marchera pas », en fonction de la manière dont ils se comportent entre eux. Mais on arrive à, parce que très souvent les gens ne connaissent pas la loi, ne connaissent pas, ou connaissent, enfin croient qu'ils ont beaucoup plus de droits qu'ils en ont, et donc c'est important. Le commerce, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que les commerçants, grosso modo, sont prêts à faire des concessions pour que ça marche. Donc, si vous voulez, les litiges de commerçants se font très bien. Quant aux municipalités et leurs administrateurs, alors là, c'est du tout ou rien. Ça varie du blanc au noir dans toute sa splendeur. Mais moi, ça, de temps en temps, je m'amusais, vous savez.
Très bien. Alors, je n'oublie pas non plus, amiral, que vous avez des talents d'écrivain. Vous avez écrit dans plusieurs journaux de la Défense nationale, en particulier un article flibustier et corsaire. Est-ce que c'est votre tasse de thé, si je puis me permettre?
Écoutez, honnêtement, pas vraiment. J'aime bien écrire, mais je me suis toujours interdit d'écrire mes mémoires parce que je trouvais que ça n'avait pas besoin d'être diffusé. Mais là, c'est, en général, les articles que j'ai écrits, c'est sur sollicitation.
Tout à fait.
Et donc, voilà, je les ai fait avec plaisir, ça m'a amusé quelque part, mais voilà, je ne suis pas écrivain, hein, je ne suis pas écrivain.
Ah, justement, flibustier et corsaire, la transition est parfaite pour vous poser un certain nombre de questions. Acceptez-vous, amiral, de répondre sur le thème « L'importance stratégique de la mer dans ce monde instable ».
Ah oui, alors ça, même si le monde n'était pas instable d'ailleurs.
Exactement. L'amiral, la mer fait rêver, mais cette immense cité d'eau qui recouvre 70% de notre planète est l'objet de nombreux enjeux. Pouvez-vous, amiral et homme de la mer, me donner, selon vous, les principaux enjeux actuels ?
Alors pour moi, si on en admet que la mer, quand même, c'est vieux, n'est-ce pas? Le droit de la mer, même s'il y a eu Montego Bay, le premier droit de la mer, c'est Grotius, grosso modo, au XVIe, XVIIe siècle. L'idée de base étant, la mer, c'est la liberté. Oui, mais la liberté s'arrête là où commence celle des autres, donc il faut un minimum de règles. L'effet nouveau, enfin l'effet d'abord, un effet qui n'est pas nouveau, c'est les politiques. Les gens qui font de la, les nations qui ont des politiques ont aussi une politique sur la mer, qui est évidemment influencée par leur politique, je dirais, d'État. Donc, si vous voulez, ça fausse déjà un petit peu les choses. Mais le deuxième grand changement actuel, qui n'est, à mon avis, qu'à son commencement et de loin, c'est l'exploitation des fonds marins. Parce que, grosso modo, jusqu'à maintenant, il y a la pêche, c'est pas vraiment les fonds. L'exploitation des fonds, vous avez le pétrole qui s'y est lancé, mais pétrole et gaz, mais grosso modo, c'est sous, et dans peu de régions, pour des régions technologiques. Mais je suis tout à fait persuadé qu'avec les progrès de la technologie et la diminution des ressources ailleurs, eh bien, ça va créer de gros problèmes, et on va quelque part chercher à territorialiser cet espace de liberté.
Alors, justement, la France possède le deuxième domaine maritime mondial, après les États-Unis. Ces espaces maritimes sont-ils nationaux ou européanisés, amiral ?
Alors, d'une part, premièrement, pour vous répondre, oui, nous sommes le deuxième pays. Mais vous savez, grosso modo, le deuxième. Ouais. Nous sommes le deuxième pays, mais grosso modo, à un epsilon et du premier et du second. Le premier étant les États-Unis et le second l'Australie. Ça, c'est bon. Deuxièmement, la grande majorité de nos eaux sont outre-mer et non pas en métropole.
Oui.
Autrement dit, si vous voulez, la question que vous me posez, c'est est-ce que c'est pour la métropole ou est-ce que c'est pour le reste, vous voyez ? Parce que c'est pas du tout pareil.
Très bien, très bien.
Parce que l'européanisation de Tahiti, à part des petits épisodes actuels, ce n'est pas grand-chose.
Autre question, alors je ne sais pas si vous allez me répondre comme amiral cadre de réserve. La France dispose-t-elle des moyens nécessaires à la protection de son espace, de ses espaces maritimes ?
La France possède des moyens. Le terme de nécessaire demande à être précisé. Nous avons de moins en moins de bateaux. C'est une des premières réponses pour une utilisation de la mer de plus en plus forte. Mais il y a quand même aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que on pourrait organiser d'autres composantes de contrôle que les bateaux gris avec des canons. On pourrait, vous voyez, de même qu'en France, on n'a jamais créé de garde-côte.
Non.
Hein, parce que, pour des raisons plutôt politiciennes, je dirais. Mais bon, mais sans parler de garde-côte, quand vous voyez le droit de la mer, Montego Bay, l'arraisonnement, le droit de visite, etc., on n'est pas obligé d'être marin avec un bonnet hein, pour les faire. Par contre, si c'est pas vous qui les faites, faut que vous contrôliez ce que font ces gens-là.
Très bien.
Et par exemple, vous savez, on a créé en France quelque chose de très intelligent, à mon avis, qui s'appelle la gendarmerie maritime.
Oui.
Vous voyez ? Et moi, quand j'étais préfet maritime, je travaillais beaucoup avec les gendarmes maritimes, bien entendu. Et c'était très bien comme ça. La douane a, elle aussi, des composantes, vous voyez ? Donc, on peut essayer de... Mais aujourd'hui, il se trouve que les nations... ne sont pas très unis sur la manière de considérer la mer. Je prends souvent, et c'est très mal, je ne sais pas si je dois le prendre, mais je prends l'exemple de Vauban en France.
Oui.
Vauban en France qui était de dire, je mets une muraille sur tout le long de la côte. Conséquence, c'est l'Angleterre qui a pris la maîtrise de la mer. Donc c'était pas forcément la meilleure des solutions. Mais je veux pas attaquer parce qu'il fallait aussi défendre contre d'autres choses. Je pense que là, vous savez, aujourd'hui, je crois que c'est 95% de nos importations arrivent par la mer.
Oui.
Enfin, un truc dans ce goût-là. Donc, il faut bien protéger. Hein. On met des feux rouges sur la route, il faut aussi en mer faire des choses. Donc, il y a un énorme travail à faire. Il y a quelques groupes de travail qui se réunissent, mais qui sont toujours, à mon avis, trop influencés par, on va dire, les perspectives à court terme et électorales. Il y a eu quelques commissions intelligentes, mais il n'y a pas encore de débouchés vraiment bien.
Alors, une dernière question, amiral. La Chine, puissance mondiale, accentue depuis plusieurs années sa marine de guerre. Est-ce, selon vous, est-ce que c'est l'affirmation qu'un pays qui ne possède pas une flotte de guerre n'a pas d'influence dans le monde, ou est-ce que c'est véritablement une volonté de domination concernant la Chine ?
Alors, bien que je ne sois pas normand, j'aurais certaines tendances à dire les deux. Dans la mesure où, pour la France, la Chine est une puissance continentale.
Oui.
Point à la ligne.
Oui.
Il se trouve que j'ai eu l'occasion de me déplacer et de travailler avec les Taïwanais.
Oui.
J'ai donc appris énormément de choses sur la mer de Chine, sur la différence entre les eaux des uns et des autres, en dehors de toute politique. Hein. Là, je parle d'utilisation
oui,
de la mer.
Oui.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est à l'évidence, la Chine est en train d'augmenter terriblement sa puissance globale, et on ne peut pas être puissant globalement sans marine.
Surtout quand on
fait du commerce international.
Oui.
Vous comprenez? Vu les exportations de la Chine, je vois mal, vu le pourcentage en plus par la mer, je vois mal comment la Chine ne devrait pas... Alors, bien sûr que c'est un danger, bien sûr. Alors après, ça va dépendre du type de gouvernement, de l'utilisation, de la politique chinoise sur mer et compagnie. Mais oui, la Chine est en train de monter d'une manière considérable, considérable.
Et elle va dominer l'ère pacifique. Les États-Unis vont être en retrait.
Alors ça, c'est un autre problème qui est difficile à juger, parce que je pense qu'on a exagéré la perte de puissance des États-Unis. Et donc, si vous voulez, ne serait-ce que sur d'autres plans que les canons.
D'accord.
Hein, il y a quand même d'autres plans, ne serait-ce que les portefeuilles, quelque part.
Oui.
Et enfin, etc. Donc, si vous voulez, honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'il y aura un conflit. Il y a déjà un conflit, mais que je qualifierais de diplomatique entre la Chine et les États-Unis. Je ne suis pas certain que ça aille jusqu'au conflit armé, mais tout est possible.
Très bien.
Tout est possible.
Amiral, nous pourrions passer encore des heures avec vous. En effet, votre conversation est passionnante. Le sujet est inépuisable. Merci encore, amiral, après cette vision d'homme de la mer sur toutes ces problématiques. Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices, pour votre écoute de l'émission Le Berry se raconte avec Agora Défense. Merci.